France Culture. Les nuits de France Culture. Un preneur de son de la radio-télévision canadienne, devenu caméraman, Paul Servant, un photographe de l'agence Gamma, Arnaud Borel, et un photographe freelance, Jean Picard, c'était à ces reporters, ayant le plus souvent exercé leur métier là où la guerre faisait rage, que Christine Lamazière et Michel Fleischmann tendaient leur micro dans le deuxième volet d'une série sur les grands reporters que programmaient les Nuits Magnétiques en 1986. Comment, en 1986, ces reporters de l'image d'actualité vivaient-ils une profession hors du commun qu'ils sentaient en voie de normalisation, voire, à certains égards, en voie de disparition? C'est ce que l'on va entendre dans « Les grands reporters », deuxième de quatre émissions, « La guerre photographiée », diffusée le 5 novembre 1986 dans « Les nuits magnétiques » sur France Culture.
Je me mets un peu à l'abri vers le bureau. La rue Hamra, qui se trouve juste à côté, qui est... Ah, il s'attire, là. Attendez, je me mets à l'abri. Ne bougez pas, je me mets un peu à l'abri vers le bureau.
Alain,
Tu n'as rien? Non, j'ai rien parce que quand j'ai entendu le... Attention.
Oui, j'ai rendez-vous avec Paul Servant.
Oui, c'est lui-même, je vous attends, c'est au quatrième.
Merci.
Grand reporter de guerre, deuxième partie. Hier soir, c'était la famille de Beyrouth. Ce soir, la guerre photographiée par Arnaud Borel de chez Gamma et Jean Picard, freelance, et filmée par Paul Servant, caméraman à la radio-télévision canadienne. Nuit magnétique, Christine Lamazière, Emmanuel Moreau, Michel Fleischmann.
Bonjour, j'espère que je ne suis pas trop en retard.
Non, pas du tout. J'étais en train de travailler pour vous.
Bon, c'est-à-dire que vous m'avez repéré les bandes sonores ?
Oui, bien sûr. Et ça fait d'ailleurs un drôle d'effet de se replonger quelques années en arrière avec des tas de documents qu'on a oubliés. Enfin, vous verrez, je vous ai fait une petite sélection de quelques reportages que j'ai fait par-ci, par-là au cours de ces dernières années.
Ok, bon, ben, je vous suis dans votre laboratoire.
Voilà, vous entrez dans mon antre, là. Pardon.
Thank you.
сосед у нас играет на кларнете и трубе.
Ce sont les événements de Prague en août 1968 où les Russes ont envahi Prague. Alors ces chants, c'est assez extraordinaire. Ce sont des chants que les militaires russes organisaient pour la population tchèque, pour les rassurer, parce que bon, ils ne venaient pas envahir un pays, mais ils venaient simplement soutenir des alliés qui étaient en difficulté. Les Tchèques étaient absolument pas dupes de ce qui se passait, hein, puisqu'il y a une jeune étudiante tchèque qui me dit mais c'est ridicule, c'est pour les journalistes qui font ça, c'est pas possible. De toute façon, on sait ce que sera notre avenir, hein, on est foutus. Voilà ce qui a été dit. Mais en fait, c'est assez étonnant que comme résultat de voir tous ces Russes soldats habillés en soldats, etc., en train de jouer de l'accordéon, etc., et de nous faire toutes ces chansons russes qui sont très belles en soi, d'ailleurs.
Mais vous pouviez tourner en toute tranquillité à cette époque.
À cette époque-là, oui. Je veux dire, si vous voulez, au tout début de l'invasion, il y avait des chars dans les rues, etc. C'est là où on a assisté à des scènes absolument extraordinaires, des étudiants. Il faut que j'ouvre une parenthèse. Là, moi, j'avais vécu les événements de mai 68 en France, où les étudiants se battaient contre les CRS à coups de pavés, etc. Bon, vous connaissez les événements de mai 68. Mais je veux dire là, les étudiants se battaient avec des pavés contre des chars, enfin c'était étonnant.
Quand on entend ces tirs, là, j'allais dire maintenant 10 ans plus tard, vous dites pas que vous étiez un peu barjot quand même ?
Si, absolument. Absolument, parce que je veux dire, quand on entend ces tirs d'Aman la nuit, il faut se replonger dans le contexte. À l'époque, nous avions fait pour la télévision canadienne un reportage en Israël. Et pour un point de vue de l'objectivité de l'information, nous étions allés faire le pendant côté arabe. C'est-à-dire, on avait fait Israël et puis 10 jours après, on est parti à Amman, en Syrie, où il y avait tous les Palestiniens, tous les réfugiés palestiniens. Alors, ce qui était étonnant, c'est que la ville d'Amman, nous étions en Jordanie, dès qu'on a eu passé l'aéroport, on est tombé sur un barrage absolument pas jordanien, mais un barrage palestinien. La première trouille, ça a été qu'on nous a vérifié nos passeports, etc., des fédaïnes en armes, etc. Et juste avant que le taxi redémarre, une fois que nos papiers étaient, on avait vérifié nos papiers, il y a une rafale de Kalachnikov qui est partie, mais à 50 cm à l'avant du taxi. Et là, effectivement, je me suis dit, ça aurait été 2 mètres de plus, on l'a pris dans la portière, on n'était plus là. Alors déjà, ça, c'était le premier contact avec Amman. Il faut se dire qu'à cette époque-là, l'armée de Hussein de Jordanie, les Bédouins de Hussein et les Palestiniens se tiraient joyeusement sur la gueule toutes les nuits. Bon. Mais alors la nuit, c'était l'enfer. Il y a 7 collines à Amman, ça se tirait d'une colline à l'autre. Nous étions à l'hôtel intercontinental qui était situé juste au milieu entre 2 collines. Et ça avait fait dire à un journaliste américain, finalement, l'intercontinental, c'est un peu comme un match de tennis où il y a 2 adversaires qui s'affrontent de part et d'autre. Et de temps en temps, il y a une balle qui tombe dans le filet étant l'intercontinental, on en recevait un peu de temps en temps. Ce que nous faisions, on était planqué, on sortait de la chambre à 4 pattes sur le balcon, le micro sur le balcon, la caméra, parce que toute la colline était embrasée. Ça faisait un spectacle absolument extraordinaire. Tout le ciel était illuminé par ces tirs d'artillerie. Et on filmait la nuit les tirs d'artillerie. Et alors, ce qu'il y avait aussi d'extraordinaire, c'était bien beau. À l'époque, nous tournions en film, nous n'étions pas en vidéo avec des points satellites, etc. Et la grande obsession des caméramans de l'époque, c'était de faire parvenir le plus vite possible à destination le film qu'on avait fait. Et pour ce faire, tous les 2 soirs, pas tous les soirs, mais tous les 2 soirs, je partais à Beyrouth, je faisais Amman-Beyrouth pour pouvoir expédier mes films de Beyrouth sur Paris, et Paris, un avion qui allait directement au Canada. Et je prenais un taxi, je partais de l'Intercontinental, je partais vers 7h du soir, il faisait nuit, et je traversais toute la ville, et c'est à ce moment-là que ça commençait à cadarder. Et que fait le chauffeur de taxi? Il allume le plafonnier de la voiture. Et nous voilà, une cible, j'étais tout seul, une cible parfaite, illuminée tout seul, parce qu'en plus il y avait le couvre-feu. Et je dis au chauffeur de taxi, you're crazy. Je lui dis, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? On est une cible parfaite. Il dit, non, au contraire, c'est important, il faut absolument qu'on sache que nous ne sommes pas des militaires, etc. Et il faut absolument qu'on nous voit. Et me voilà absolument recroquevillé dans la voiture, me faisant le tout petit possible, en me disant, mais je suis complètement fou. Pourquoi je suis pas parti ce matin? Pourquoi j'ai pas pris un avion à midi? Pourquoi il faut attendre? Et la bonne raison, il fallait attendre le soir parce qu'on voulait amasser le plus d'images possible dans la journée pour aller expédier nos films. Mais je veux dire, c'est pas forcément au Vietnam où il y a un accrochage, etc. C'est dans des moments comme ça, je crois, où j'ai eu le plus peur, où je me suis dit, traverser une ville la nuit avec un taxi qui éclaire une voiture, et alors qu'il y a des tirs qui vous passent au-dessus de la tête, il faut être complètement fou. On se dit, dans quelle galère je suis venu me mettre? Vraiment, il faut être idiot. Au début, on dort pas du tout. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis aperçu qu'on arrivait à dormir sous des bombardements. Mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Je veux dire, il faut en avoir pris pas mal sur la gueule avant de pouvoir dormir. Mais je crois qu'il arrive un moment où on est tellement fatigué, on est obligé de récupérer et on arrive à dormir. Mais il faut quelques années avant ça. Mais au début, non. Au début, on peut pas dormir. Au départ, j'étais pas fait pour ça. Mais ce sont les événements. Et puis, je crois que quand on a commencé à être dans cet engrenage, on se dit qu'on a une espèce d'habitude. C'est pas vrai d'ailleurs, parce que les situations ne se ressemblent pas toujours. Mais je veux dire, on se dit qu'on a pris une espèce d'expérience et que finalement on peut y aller et qu'on va savoir réagir. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que on réagit. Je veux dire, quand on connaît, on sait ce que c'est la guerre, on réagit d'une certaine façon.
On prend des réflexes de guerre.
Je pense qu'on prend des réflexes de guerre, absolument. Par exemple, à l'heure actuelle, bon, je suis devenu caméraman pigiste et indépendant. On m'a demandé d'aller en Libye. Et la première condition que j'ai posée, j'ai dit, OK, je veux bien partir. À une condition, c'est que je choisisse mon ingénieur du son. Alors, réflexe de guerre, oui, je pars dans une zone de guerre, mais je veux absolument choisir mon ingénieur du son. C'est vital pour moi. Bien des fois, mes ingénieurs du son m'ont sauvé la vie. Tous les caméramans le savent, et même les caméramans amateurs, c'est que lorsqu'on prend une caméra, on ne voit que le côté gauche, tout ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'objectif, et tout ce qui se passe à gauche. Mais tout le côté droit est absolument aveugle. On ne voit jamais ce qui se passe du côté droit. Et si vous voulez, comment dirais-je, on a trois yeux, en fait, parce qu'il y a l'objectif, c'est un œil, on garde l'œil gauche ouvert, on peut voir ce qui se passe à gauche, et y aurait une espèce de troisième œil qui serait à droite qu'on ne voit pas, et ça, c'est le rôle de l'ingénieur du son. Et je veux dire, plusieurs fois, mes ingénieurs du son m'ont tiré comme à Téhéran derrière un arbre quand on a vu qu'on me pointait un fusil dessus pour essayer de me tirer dessus. En ce qui concerne Tainin, où on vient d'entendre ces combats, où on a sauté chacun d'un côté, mon ingénieur du son m'a poussé dans un trou parce qu'il a vu qui avait un départ d'obus de mortier, il y a des éclats qui nous ont pété autour. Je veux dire, c'est très important, très très important, et c'est là où il faut avoir un ingénieur du son qui réagit comme vous, qui a peur, mais qui a suffisamment de réflexes pour vous protéger. Et je veux dire, pour moi, ça c'est primordial, et je dois la vie plusieurs fois à mes ingénieurs du son. Dans ce genre de situation, nous sommes trois, il faut bien se dire que nous sommes trois. Il y a le correspondant, le caméraman et l'ingénieur du son. Nous sommes trois. Si les trois ne sont pas parfaitement unis, il y a un danger. D'ailleurs, il faut que je tire un grand coup de chapeau à tous mes copains photographes, pour la bonne raison qu'ils sont toujours seuls.
Descendez. 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 Descendez.
Téhéran quand ça allait très très mal. Mon ingénieur du son avait très très peur. Je ne peux pas lui en vouloir d'ailleurs. Je veux dire, je conçois tout à fait qu'on ait peur, mais c'est très désagréable dans la mesure où la peur est communicative. C'est si quelqu'un... Bon, on a tous peur. Moi, je ne peux pas dire que quand je suis parti sur un reportage de guerre ou dans une situation très tendue, je n'ai pas eu peur. J'ai toujours eu peur. Je veux dire, la peur, ça se domine. Mais si vous avez quelqu'un à côté de vous qui a une peur qu'il ne domine pas, il vous communique cette peur. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux. À mon avis, c'est très, très, très dangereux. Quand on s'est retrouvé au Ledra Palace en 1974 à Chypre, où les Turcs commençaient à tirer sur le Ledra Palace, etc., j'ai dit à mon ingénieur du son, il faut absolument que je fasse des images. Et pour faire des images, il faut que je sorte du Ledra Palace. Mon ingénieur du son, à l'époque, m'a dit, Paul, si tu m'en veux pas, moi, je vais faire du son de l'intérieur ou juste en bordure de l'hôtel. Et je te suis pas, tu m'en veux pas. Je dis, non, absolument pas. Et je veux dire, je comprends tout à fait ça, mais je préfère ça à la limite que d'avoir quelqu'un. Lui est resté à l'intérieur de l'hôtel et moi je suis sorti pour faire quelques images dehors. Bon, je n'ai pas pris des risques énormes, mais enfin il fallait un peu sortir de l'hôtel pour faire quelques images. Et je comprends tout à fait qu'on me dise, Paul, tu m'en veux pas si je te suis pas. Ça, je veux dire, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que, je veux dire, quelqu'un dans l'équipe, que ce soit le correspondant ou l'ingénieur du son, ou même ça peut être le caméraman qui a peur, dans une équipe, c'est très dangereux. À mon avis, c'est très dangereux. Et moi, ça, plusieurs fois, ça m'a fait peur.
C'est important d'avoir une famille quelque part qui vous attend.
Absolument. Je crois que c'est lié au métier. Je veux dire, pour ça, je ne veux pas jeter de fleurs à ma femme. J'ai une femme exceptionnelle qui, pendant 18 ans, ne m'a pas dit « ne va pas dans des zones de guerre ». Elle ne me l'a dit que récemment parce que je suis plutôt jeune. Maintenant, j'ai 48 ans et que j'ai pas mal de sales histoires derrière moi. Enfin, qui ont été tous en soi des reportages passionnants. Mais je veux dire, maintenant, je suis plus tellement dans le coup. Et pour la première fois en 80 à Téhéran, ma femme m'a dit « Je te demande de ne plus aller dans des zones de guerre, y compris Beyrouth, etc. » Mais c'est très important. Et je veux dire, pendant toutes ces années où j'étais au Vietnam, où j'étais au Biafra, où j'ai été pendant la guerre des six jours, où j'ai fait la guerre du Kippour en 73, etc., il fallait que je sache que ma famille était bien, que mes enfants étaient bien dans leur peau, que c'était absolument indispensable. Je veux dire, il m'est arrivé des anecdotes, par exemple, un jour, je ne me souviens plus, je crois que j'étais au Vietnam, un jour j'ai téléphoné à ma femme et je lui ai dit « Au fait, il faudrait absolument que tu fasses mettre une sécurité sur la fenêtre. Nous habitions un immeuble très très haut à Hong Kong, qui était une espèce de tour immense. Et une nuit, j'étais paniqué en me disant, j'avais rêvé que mes enfants passaient par la fenêtre. Et j'ai téléphoné immédiatement à ma femme en me disant, il va falloir mettre des crochets de sécurité sur les fenêtres de l'appartement. Bon, et à partir du moment où je savais que ma famille était bien, que mes enfants étaient bien, etc., ça aide à faire son métier. À partir du moment où il y a des problèmes, que ce soit financier, que ce soit affectif, etc., je pense pas qu'en faisant ce métier dans les zones de guerre, on puisse le faire en toute dilettante. Enfin, tant et si bien qu'on puisse être en dilettante dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que c'est très important psychologiquement d'être bien dans sa peau à tous les niveaux pour pouvoir aborder ce genre de reportage.
On pense que ses enfants vont regarder à la télévision le film qu'on a fait.
Ça m'est jamais venu à l'idée. Absolument jamais.
Ceasefire, ceasefire. United Nations Patrol in Leader Palace. Ceasefire, ceasefire. United Nations Patrol in Leader Palace. Ceasefire, ceasefire, ceasefire.
Personnellement, j'ai pas rencontré de tête brûlée. On a toujours l'image du caméraman qui va foncer sur les coups, suivi par son ingénieur du son qui va courir, qui est nerveux, etc. Moi, personnellement, je sais pas, peut-être que d'autres amis ont rencontré des gens un peu baroudeurs, un peu flambeurs, etc. Mais je dois dire que tous les opérateurs, que ce soit ingénieur du son, caméraman, photographe que j'ai rencontré, d'ailleurs, c'est assez paradoxal de, de, de rencontrer des gens qui sont aussi calmes dans des situations aussi difficiles. Je pense que le profil de tous les gens que j'ai connus dans ces zones-là, c'est un profil de gens qui se contrôlent et qui sont très très calmes. Ah, ça, c'était, je crois, un des moments les plus excitants pour moi. Voilà, à Amman, j'allais expédier mes films à Beyrouth. J'arrivais donc le soir à Beyrouth. J'amenais mes films pour être expédiés à Paris. J'expédiais par radio les bandes sonores, etc., etc. Et le lendemain, je prenais un avion de la Jordan Airlines qui me ramenait à Amman. Un matin, on est dans l'avion. On arrive en bout de piste. En bout de piste, on nous dit « Ah, ben désolé, ladies and gentlemen, il y a un problème, on est obligé de revenir à l'aéroport. » Bon, on revient à l'aéroport et on apprend quoi ? Qu'il y a un détournement d'avion. Et là, c'est le début de cette histoire fantastique, vous êtes peut-être un peu jeune pour vous en souvenir, qui a été les fameux détournements des avions de Zarqa, où il y a eu 3 appareils de la BOAC, de la TWA, de la Swissair, qui ont été détournés en plein désert d'Amman par des Palestiniens. Et là, il y a eu toute une tractation entre la tour de contrôle de Beyrouth et les terroristes qui se trouvaient à bord du VC-10 de la BOAC. Et ils se parlaient de tour de contrôle à avion, etc., ce qu'on faisait, de quelle direction ils allaient prendre. Il a été question à un moment qu'ils aillent au Caire. Et finalement, la finalité, c'était qu'ils se posent dans le désert de Zarqa. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Ils se parlent entre eux à la tour de contrôle. Comme j'étais en transit, il y avait le duty free qui était à côté. J'ai donné $100 à un type de duty free. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous emprunter un poste de radio? Est-ce que je peux vous emprunter un appareil de photo? Et je me suis branché sur la longueur d'onde sur lequel trafiquait la tour de contrôle et l'avion, et j'ai enregistré toute la conversation entre les terroristes qui étaient à bord de l'avion et la tour de contrôle. J'en ai profité pour faire des photos. L'avion a décollé. J'ai rendu la radio que j'avais empruntée au marchand du duty free. Et j'ai expédié mes photos sur Paris du détournement d'avion et j'ai ramené cette bande sonore qui, je crois, est un des seuls enregistrements de terroristes qui discutent avec une tour de contrôle et qui demandent quels sont les ordres, etc., etc. Et ça a été un moment absolument extraordinaire pour moi. Là, nous étions dans un marché qui était juste en plein centre de Tainin. Il y avait les Viettes, d'ailleurs, qu'on voyait courir à 500 mètres de là, qui tiraient sur les troupes gouvernementales. Nous, évidemment, on était du côté gouvernemental. Dans ce document, d'ailleurs, il y a une chose assez étonnante. Les balles, on entend des balles siffler. Vous savez, comme dans les westerns, on entend le tchip. Et dans ce document, on entend 2 ou 3 fois, il faut vraiment tendre l'oreille. Mais c'est vrai que... Et là, j'ai eu très peur parce que les Viettes répondaient à coups de mortier. À un moment donné, il y a un obus de mortier qui nous est arrivé dessus. Mon ingénieur du son a hurlé. Je me suis jeté d'un côté. Lui est parti de l'autre, comme on était reliés, etc. On a cassé des câbles. D'ailleurs, ça s'entend. Je dis, comment on n'a pas de son, etc. Enfin, mais là, je veux dire que c'était assez tendu. C'était assez tendu.
Paul, j'entends pas quand tu tires.
Pourquoi ?
J'entends pas quand tu tires.
Non, j'entends pas.
Non, ça va enlever un trac, ça va pas. Là, vous pouvez te casser, j'en sais rien, moi, je vais te tirer dessus quand même. Bien. Bonne main. J'entends pas.
Approche-toi. Quoi, qu'est-ce que tu as ?
J'entends pas quand tu tournes.
Bah alors ça prouve qu'il y a une couille quelque part, c'est
tout.
Il y a 2 pays où je ne retournerai jamais, l'Iran. Parce que j'ai failli me faire descendre très bêtement en Iran. Je ne sais pas si je dois vous le raconter, mais enfin, c'est vrai que je ne retournerai jamais en Iran. Et le deuxième pays où je ne retournerai plus, c'est Beyrouth. Parce que, je veux dire, Beyrouth, il n'y a plus de guerre à Beyrouth. Maintenant, c'est du terrorisme. Je veux dire, les journalistes sont pris en otage. J'en veux pour preuve nos amis d'Antenne 2 qui sont prisonniers. On se demande pourquoi. Je veux dire, ce métier de reporter de guerre n'est plus ce qu'il était. J'allais dire, comme disait Brassens, on n'a plus les guerres qu'on avait. Mais c'est vrai, je veux dire, ce métier est devenu n'importe quoi, tant du point de vue des opérateurs que du point de vue des événements qu'on couvre. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, quand j'étais au Vietnam, on était dans un camp au temps des Américains. Moi, je suis arrivé au départ des Américains. On était d'un côté, il y avait les Viet de l'autre. Je veux dire, que ce soit pendant la guerre des six jours en 67, il y avait les Israéliens d'un côté, les Égyptiens de l'autre, enfin, et les Jordaniens, etc. On était d'un côté ou de l'autre, mais enfin, on était ou d'un côté ou d'un autre, et on couvrait la guerre soit d'un côté, soit de l'autre. Mais je veux dire, on n'était pas pris en otage, alors que ce métier, maintenant, c'est devenu absolument n'importe quoi.
Ah, c'est ça, c'est ton câble qui est pété. Tiens-le comme ça. Tiens-le, on a tellement tiré dessus. Prends l'autre câble, alors le vieux, on a un noir là. Ça y est, ça marche là, tu veux le contrôler, ça va? Bon, ben, un peu large. Il est dessoudé l'autre, il est pété, c'est tout.
Je voudrais retourner maintenant dans ce genre de situation en me disant comment je réagirais. Je ne sais absolument pas comment je réagirais à l'heure actuelle dans ce genre de situation. Nous sommes en 1986, depuis 80, je ne suis pas retourné dans ce genre de situation de reportage de guerre ou tendu ou d'émeutes ou de choses comme ça. Alors je ne sais pas du tout, mais j'ai un petit pincement au cœur quand même.
Bon, en fait, c'est qu'il y a des hélicos qui tournent le tour et qui sont pas armés, ces hélicos, ou quoi?
Au revoir.
À bientôt.
Arnaud Borel, photographe à Gama.
Non, parce que si tu te mets légèrement au-dessus, avec l'escabeau.
Alors vous faites quoi ici?
Je suis en reportage sur les grands reporters avec Arnaud Borel.
C'est un très bon choix. C'est un très bon choix.
Non, mais j'ai déjà essayé de lui expliquer que c'était un terme qui n'était pas usité chez nous, grand reporter. Il n'y a pas, on est tous photographes. Il n'y a pas de gens qui sont plus photographes que leurs voisins. On est tous des photographes. Et le terme de grand reporter, c'est quelque chose de la presse écrite, qui est juste un échelon de salaire, c'est tout. C'est pas parce qu'on est grand reporter qu'on passe plus la barrière de Paris.
Oui, mais vous avez été grand reporter de guerre, vous, Arnaud.
Oui, mais j'ai été photographié des gens qui se tapaient dessus. Mais ça m'a pas donné un titre.
Depuis combien de temps vous n'êtes pas parti sur un lieu de guerre?
Un temps fou. Je crois que j'ai pas été dans une situation tendue depuis l'enlèvement de Philippe Rochaud et de son équipe à Beyrouth. C'était en mars 86.
Mmh. Vous les avez rencontrés là-bas à cette époque?
Je les ai rencontrés, d'abord on vivait dans le même hôtel,
oui.
On déjeunait, on dînait dans le même restaurant. Et puis un matin on a été faire des photos et eux tourner dans une mosquée où on était invités. Et eux sont partis 5 minutes après moi. Et ils sont jamais revenus à l'hôtel.
Encore une ?
Oui.
C'est vous qui choisissez vos endroits ou c'est votre agence qui vous envoie ?
C'est 50-50. Enfin, pour aller à Beyrouth, ils n'ont pas besoin de beaucoup me pousser. Mais j'y retournerai aujourd'hui, maintenant, il faudra partir, j'irai. Mais si vous réfléchissez 30 secondes, c'est complètement inintéressant. Si vous faites le pourcentage des risques pris pour ce que vous ramenez comme matériel journalistique, c'est nul. Il vaut mieux rester chez soi.
Vous restez à Paris?
Oui, il vaut mieux rester à Paris, à la maison. Et on ramène rien de Beyrouth.
Maintenant?
Non, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Vous ne pouvez pas vous promener dans la rue comme vous le voulez. Les gens sont pas vraiment follement amoureux des Français.
Est-ce que vous avez pris des risques dans votre métier? Est-ce que vous êtes arrivé une fois d'avoir un problème, un pépin, en tant que photographe?
Ben oui, j'ai été blessé 2-3 fois, mais...
Où? À quel endroit?
Physiquement ou géographiquement?
Les deux.
Géographiquement, au Liban. Au Liban, j'ai dû faire en tout 36 mois de Liban. En tout, depuis les 10 ans de début de l'histoire.
Mais vous avez été blessé en prenant une photo, comment ça s'est passé?
Oui. Bah, la dernière fois, je travaillais dans la montagne, vers Baalbek. Et puis, il y a eu deux ou trois obus de mortier qui ont été tirés juste sur nous, sur le groupe.
Le groupe, c'est-à-dire le groupe?
Bon, il y avait des combattants palestiniens sur lesquels je faisais les trois photos. Et il y a eu 3 ou 4 morts et puis 2 blessés. Et puis je m'en suis sorti, je marche, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête.
Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez été blessé où?
J'ai pris 83 éclats de mortier partout, depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Enfin, 83, vous savez, il y en a qui sont gros comme des têtes d'épingle. C'est pas tous des pièces qui ont 1 cm².
Vous êtes allé à l'hôpital après?
Ah oui, j'ai été à l'hôpital américain à Beyrouth, puis à l'hôpital américain à Paris, et puis j'ai eu 1 an d'arrêt de travail.
Alors comment ça se passe dans ces cas-là, sur le plan professionnel, quand vous êtes blessé? Est-ce que vous avez une assurance? Est-ce qu'il y a des primes? Comment ça se passe?
Non, on n'a pas de prime de risque, ça n'existe pas. Mais on est tous assurés. On est tous assurés d'une manière privée. Enfin, c'est l'agence qui s'occupe de gérer ça. Mais on a tous une assurance pour les risques de guerre.
C'est-à-dire une assurance que vous prenez vous personnellement, ou c'est votre boîte, c'est Gamma qui prend une assurance pour vous au cas où il vous arriverait quelque chose?
Alors c'est Gamma qui s'occupe de gérer l'assurance, c'est-à-dire que c'est Gamma qui s'occupe de trouver un assureur qui veuille bien nous assurer, puis qui s'occupe de le payer, mais on en paye nous la moitié, photographe, étant donné qu'on prend en charge la moitié de tous les frais.
C'est cher?
C'est très très cher, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est très très cher. 3 000 ou 4 000 francs par semaine, quelque chose comme ça.
Est-ce que vous faites de la politique, vous, personnellement? Est-ce que vous adhérez à un syndicat ou à un parti politique?
Non, je crois que j'ai même pas de carte d'électeur. Et non, pas du tout, non.
Vous ne vous sentez pas préoccupé par ce qui se passe dans votre pays sur le plan politique?
Par la politique française?
Oui.
Non, pas tellement, non. Pas du tout même, absolument pas.
Par exemple, quand vous êtes à l'étranger, par exemple au Liban, une photo n'est jamais innocente?
Bien sûr que c'est jamais innocent, une photo. C'est jamais innocent, ne serait-ce que parce que je perds totalement le contrôle de ma photo à partir du moment où elle est sortie de l'agence. À partir du moment où elle arrive dans une salle de rédaction d'un journal, on en a perdu le contrôle. Ils écrivent la légende qu'ils veulent en dessous. On n'a aucun. Nous, on a mis une légende au dos de la photo qui correspond à la réalité. Mais eux écrivent ce qu'ils veulent en dessous. On n'a pas de contrôle. On ne peut pas venir faire la police en lisant par-dessus l'épaule les gens qui font les légendes et en leur disant vous n'avez pas le droit d'écrire ça, c'est faux. Moi, je suis maître de mon cadrage, je suis maître de l'histoire que je raconte.
C'est un peu limité.
Oui, bah tant pis.
Est-ce que vous êtes complètement innocent? Vous prenez la plus belle photo ou au contraire, vous essayez de faire passer votre propre message dans une photo de guerre?
Écoutez, quand il y a des gens qui se font massacrer, on est forcément du côté des massacrés, d'une manière évidente. Alors au Liban, c'était un petit peu plus délicat parce que tout le monde massacrait tout le monde. Donc on ne pouvait pas dire que les chrétiens étaient plus particulièrement méchants que les Palestiniens, puisqu'ils avaient fait des massacres et que les Palestiniens avaient fait des massacres aussi. Donc comme tout le monde s'était joyeusement entre massacrés, on les mettait tous un peu dans le même sac. On les mettait tous dans le même sac. Quand je fais une photo, je n'en vois généralement pas la finalité politique, mais je vois l'image qui se construit devant ma tête. Mais la finalité politique, ça, c'est des choses. J'ai pas le temps sur le moment. Je veux dire, je veux pas y penser. J'ai pas le temps. Je fais des photos. Pendant très très longtemps, j'ai cru à la grande mission pacificatrice du journaliste. Et puis j'y ai de moins en moins cru et aujourd'hui j'y crois presque plus. Si vous voulez, quand il y a un massacre à Sabra Shatila et que les journalistes sont là, c'est très très bien que ça se sache. Mais les journalistes n'ont pas arrêté le massacre. Dire, le prochain massacre du Liban aura tout de même lieu, même si nous avons dénoncé le précédent. Donc en fait, on arrive toujours après la bataille. La majorité du temps, on arrive après la bataille et on raconte ce qui s'est passé et les gens disent « Ouh là là, c'est pas bien ». Mais comme ça n'a aucun effet physique concret sur le terrain pour empêcher le prochain massacre, c'est une aimable plaisanterie tout ça. C'est-à-dire la grande mission, j'y crois plus.
vous avez l'impression de simplement de vendre des photos pour informer l'Occident et point, c'est tout.
Ben, en gros, oui. Si vous voulez, en gros, je dirais même, dans les moments de mauvaise humeur, j'irais même jusqu'à dire que nous faisons des photos pour vendre du papier. Pour que les journaux vendent du papier.
Pourquoi est-ce que vous retournez alors, sachant ses conséquences ?
Ah ben parce que c'est tout ça, c'est un peu le sel. Bon, puis je ne sais rien faire d'autre. Premièrement, je ne sais rien faire d'autre. Deuxièmement, j'aime beaucoup ça. Troisièmement, je vais surtout pas avouer que je veux plus y aller. D'ailleurs, si on faisait pas ça, on serait obligé de travailler. C'est une phrase célèbre chez nous.
C'est vrai ?
Oui, oui. Si on faisait pas ça, on serait obligé de travailler. On dit ça généralement dans les moments un peu durs, ou les moments où on s'ennuie beaucoup, où on a beaucoup de problèmes et d'ennuis.
Ça vous arrive de vous ennuyer dans ces métiers ?
Ben, vous vous ennuyez parce que vous passez peut-être 60 ou 70% de votre temps à attendre les 15 secondes de travail.
Est-ce que vous arrivez à avoir une vie privée ?
Oui. Il est évident que ma vie privée n'a pas grand-chose à voir avec la vie privée de quelqu'un qui travaillerait tous les jours à Paris, qui aurait des horaires de bureau. Il est évident que je disparais pendant 3 semaines, 4 semaines, que je reviens 5-6 jours à Paris, que je peux repartir pour 4 semaines.
Vous êtes marié ?
Oui.
Vous avez des enfants ?
Non. C'est un métier en train de... pas de mourir, parce que mourir c'est un peu trop fort, mais un peu en train de disparaître. Ça sera certainement moins important demain que ça ne l'était hier.
Pourquoi ? C'est dû à quoi et pourquoi ?
Alors, il y a une chose très importante, très symptomatique. Il n'y a plus de journaliste alcoolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la physionomie du métier a complètement changé. Il y a 10, 15, 20 ans, les gens qui écrivaient, par exemple, avaient une passion. Je veux dire. Et c'était des alcooliques. Et ils nourrissaient leur passion en écrivant des livres et en buvant. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tous les journalistes que l'on rencontre sont des gens qui, un, sortent d'une école de journalisme, ce qui n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Et ce sont des gens qui se construisent des plans de carrière. Ils ne sont pas là pour vivre une aventure, pour rigoler, pour aller faire la fête avec leurs copains. Ils sont là en recherchant un pouvoir qui est un pouvoir presque politique. Tous ces gens-là, ils veulent écrire des choses sur la politique intérieure, ils veulent être dans un bureau, ils veulent devenir chef. Ils ne veulent pas voyager. Moi, je cherche à rigoler. Moi, je suis là pour rigoler, je suis là pour m'amuser, je suis là pour vivre des choses, je suis là pour bouger. J'ai 30 ans, je vais changer de métier, probablement. Je vais probablement faire autre chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais faire autre chose.
Et pourquoi ça ?
Je vais faire autre chose parce que ce métier auquel j'ai rêvé depuis 13 ou 14 ans ne correspond plus dans les faits à mon rêve. Donc je m'en vais. Je sais que demain, je ne pourrai plus jamais vivre ce que j'ai vécu hier. Donc, fin de l'histoire. Je vais faire autre chose. J'avais l'impression, peut-être fallacieuse, d'avoir un peu tout vécu, un peu tout vu. Il m'est tout arrivé. J'ai été collé contre un mur, on s'est amusé à me tirer autour de moi, j'ai été mis à genoux dans la neige, les gens se tiraient autour, j'ai été enlevé, on m'a jamais bandé les yeux, mais j'ai été blessé, j'ai été partout là où il se passait, où l'événement se passait. Et j'ai l'impression de parler comme un retraité alors que j'ai que 30 ans. C'est-à-dire que pour 80% de la population, c'est leur vie qui commence à l'heure où la mienne s'arrête. Non, je blague, je ris. Non, elle s'arrête pas. Mais enfin, sous une certaine forme, elle s'arrête, oui. il y a 10 ans. N'importe quel événement, aussi petit soit-il, il y avait quelqu'un qui partait tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, quelqu'un partait. Aujourd'hui, les gens commencent à se poser la question de savoir si ça va être rentable. Parce qu'avant, on était sûr que ça serait rentable. On était sûr que l'un dans l'autre, sur l'année, on fera les frais, on gagnera de l'argent. Bon. Aujourd'hui, partir au dernier tremblement de terre au Salvador, ça doit coûter aux alentours de 30 000 francs. Et qui va utiliser les photos? Parce qu'on voit beaucoup de cartes de page noir et blanc dans l'IB, dans le matin, dans le quotidien, mais ça fait pas vivre. C'est dérisoire, la rentabilité financière. Est-ce que les grands magazines vont mettre vraiment beaucoup d'argent sur le Salvador? Il est probable que non. Il n'y a plus d'aventuriers. Il n'y en a plus, ça n'existe pas, ça. C'est
non.
Beaucoup trop cher, ouais, beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher d'être un aventurier. Ça n'existe plus, les aventuriers. Il n'y a plus d'aventure. Ma vie, le démarrage dans ce métier, c'est un rêve. Tout est un rêve. Je veux dire, si je deviens photographe, c'est parce que j'ai envie d'être photographe. Si je fais du reportage, si je fais des gens qui se tapent dessus, c'est à cause de Jean-Claude Francolon, qui est quelqu'un que je ne connais pas, donc je lis une interview dans un journal. Et quelques années plus tard, ça devient l'un de mes 2 ou 3 meilleurs amis avec qui je passe tous mes week-ends, qui est l'actionnaire de l'agence dans laquelle je travaille. Première chose. Deuxièmement, si mon premier reportage à l'étranger, c'était le Cambodge, la guerre du Cambodge. Bon, parce que à l'époque, je ne m'entendais pas beaucoup avec mon père, j'avais quitté le domicile, et puis j'étais parti m'expatrier en province. Bon, et puis au bout de 2 ans, je suis rentré à Paris. Je suis rentré à Paris un peu détruit, la queue entre les jambes, petit chien qui rentre comme ça. Et tous les jours, je lisais dans Le Monde une page entière qui était écrite par Patrice Debert sur la guerre du Cambodge. Et tous les jours, il disait la fin est inéluctable, elle s'approche. Et puis je connaissais une vieille dame, un peu indigne, et très très bien, à qui je racontais ça le soir. Et un soir, elle me dit, mais tu nous ennuies. Tu dis le Cambodge, tu veux aller au Cambodge, pars. Je suis rentré à l'appartement le soir. Le lendemain matin, je me suis levé à 7 heures. Ma mère est morte quand j'étais très très jeune, j'avais 3-4 ans. J'avais donc un héritage. J'ai enlevé ces sous de la banque. J'avais 19 ans. J'ai enlevé les sous de la banque, qui était une banque en haut de la rue de Rennes. En face, il y avait la Fnac. Je suis rentré, j'ai acheté un appareil photo et une optique pour compléter un peu ce que j'avais. J'ai pris un taxi pour aller à l'ambassade du Cambodge, où je suis arrivé les mains dans les poches, où j'ai rencontré l'attaché de presse qui m'a dit « Pas de problème, voilà le visa ». J'étais les mains dans les poches, j'étais rien, j'ai pas de carte de presse. Et à 14 ou 15 heures, j'étais à Roissy, où j'ai acheté un billet, Paris, Phnom Penh, et je me suis retrouvé à Bangkok le soir. Et là, j'ai eu la plus grande période de cafard de ma vie, c'est que je me suis retrouvé dans l'hôtel à Bangkok le soir, à 19 ans, les mains dans les poches, en disant « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Pourquoi suis-je venu? Quelle stupidité monstrueuse. Et le lendemain matin, à Bangkok, je pars prendre l'avion pour aller à Phnom Penh. Et dans la queue, les gens qui allaient à Phnom Penh, on était 6 dans l'avion. Et je ne possédais plus de baht thaïlandais pour payer la taxe d'embarquement. Et à ce moment-là, il y a une main qui se pose sur mon épaule et quelqu'un me dit, je vais te la payer en baht thaïlandais, tu me la rendras. Et je me dis, c'est très très gentil, je me présente. Il se présente, c'était Patrice Debert. Et à la suite de quoi, à l'intérieur de l'ambassade, quand on a été prisonnier, l'histoire de Killingfield, j'ai épousé une Cambodgienne pour lui fournir un passeport. Et c'est Patrice Debert qui m'a servi de témoin de mariage. Donc tout ça, c'est un rêve. C'est pas quelque chose de palpable. C'est le rêve. Et j'ai un petit peu peur de plus jamais pouvoir revivre un rêve pareil. Mais je suis pas aigri. Mais je suis pas aigri du tout. Hein. C'est une aventure merveilleuse. Mais toute ma vie, ça a été comme ça, des moments un peu exceptionnels où tout s'emboîtait sans que personne ne le veuille. Si si dans 20 secondes, on me dit « t'es au Bourget, Orly, Roissy, c'est à 10 minutes, tu pars », je pars. Ah, bien sûr, je pars. Si on me dit quelque part, il y a des gens qui se tapent dessus, j'irai.
Mercredi 27 septembre 1986, 17h26, rue de Rennes. Jean Picard, photographe freelance.
Bon voilà, je rentre dans la FNAC, je suis arrivé dans le SAS et le vigile est devant moi.
Vous pouvez ouvrir votre blouson s'il vous plaît ?
Voilà, et c'est à ce moment-là où ça a sauté. Boum, ça a explosé. Donc je suis ressorti tout de suite.
On l'entend ce bruit ?
Ah oui, complètement, oui, on l'entend très bien, très fort. Au début, on ne croit pas que c'est une bombe. Enfin, moi, je n'ai pas cru tout de suite. Et puis, ça aurait pu être n'importe quoi, une canalisation de gaz, un accident violent, une vitre qui tombe. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas fait très, très attention. C'est après que je me suis rendu compte.
Et déjà là, vous avez été bousculé ?
Oui, là, déjà, dans le SAS où nous trouvons, à la FNAC, les gens ont marché à quatre pattes et rampé, pour ainsi dire, pas par le dégât de la bombe, mais par peur. Il y a des gens qui ont compris tout de suite que c'était une bombe. Il y a des gens qui sont rentrés dans la FNAC pour se protéger. Et bon, moi, je suis ressorti, j'ai poussé tout le monde, je suis ressorti sur le trottoir tout de suite pour voir ce qui se passait, où ça se passait, d'ailleurs. Je suis ressorti juste à l'angle de la rue de Rennes et de la petite rue où il y a Tati.
Oui, là où on est en fait.
Voilà, c'est ça. Et à 20 mètres devant moi, bon, j'ai vu que ça brûlait, enfin il y a de la fumée. Et c'est là où j'étais complètement persuadé que c'était une bombe. Alors mon premier réflexe, c'était de courir au milieu de la rue de Rennes, c'est-à-dire un peu en recul vers le métro Saint-Placide, parce que j'ai pensé à la deuxième bombe, comme à Beyrouth. Je dois dire que j'ai eu un peu peur, j'ai eu une appréhension. Et arrivé à 10 mètres, j'ai fait demi-tour, j'ai commencé à faire mes photos parce que de toute manière, il fallait que je les fasse.
Parce que vous aviez un appareil sur vous ?
Ah ouais, j'ai toujours mon appareil sur moi, toujours mon Leica sous mon blouson, dans ma poche ou dans ma voiture. Enfin, de toute manière, j'ai toujours quelque chose sur moi. Pellicule noire, pellicule couleur, bon, c'est un réflexe qu'on a au bout de quelques années, quoi. Là, j'ai remonté tout en marchant, c'est-à-dire, tout en faisant les photos, je marchais au milieu de la rue qui commençait à être déserte. Les voitures sont parties très très vite, les gens sont partis en courant un peu n'importe comment, en hurlant. Et puis, c'est là où il y a eu ce fameux silence où tout le monde avait compris ce qui se passait et il y a eu ce silence pesant, enfin très très lourd. On entendait simplement les blessés, quoi, qui gémissaient, qui se plaignaient. Il y a des gens qui étaient très, très, très gravement blessés. Et ça devait être terrible parce que j'ai vu une femme qui avait une jambe arrachée, qui était accompagnée de son mari, je suppose, et de son enfant, qui se tenait devant la vitrine, devant les barrières du trottoir, juste en face, là. Et il y avait beaucoup de blessés qui hurlaient de douleur. Et aussi des gens qui hurlaient d'horreur, enfin des parents, des proches, je sais pas moi. Mais il y avait pas mal de gens devant le magasin qui faisaient pas mal de bruit, quoi. Là où j'en suis, c'est-à-dire je suis encore rue de Rennes, j'avance doucement, donc avec le boîtier, ce que je quitte pas, je quitte pas l'œil du boîtier pour faire mes photos, puis un peu pour me préserver, je veux dire, parce que là je suis en plein dedans, je comprends ce qui se passe tout à fait, je veux dire, l'émotion est très très forte. Enfin, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est une espèce de crainte ou d'horreur, je sais pas, enfin bon, j'avance tout doucement, et c'est qu'arrivé devant 3 mètres du lieu où la bombe a explosé, que là, effectivement, ça sent le brûler, d'une part, les vêtements et le matériel qui a sauté, mais aussi une odeur de chair brûlée, quoi, les gens qui ont été touchés de très très près. Sur le moment, on se rend pas bien compte, je veux dire, on fait comme on peut. Enfin, personnellement, moi, j'ai fait comme j'ai pu, c'est-à-dire que j'ai essayé de garder mon sang-froid tout en ayant les yeux embués de larmes, parce que c'était vraiment l'horreur du spectacle, mais aussi surtout l'horreur que ça puisse arriver à Paris, rue de Rennes. Enfin, je sais pas, j'avais la vision de cette tour Montparnasse que je connais depuis que je suis tout petit, cette rue de Rennes où je vais souvent acheter des vêtements ou des disques, où je viens me balader, puisque moi j'habite pas très loin, et d'un seul coup j'ai l'impression d'être à Beyrouth avec Tati, la rue de Rennes et ses magasins, quoi. Le pire, si je peux dire, mais quelque chose que j'ai ressenti très très fort, ça a été cette espèce de contact qu'on a avec les gens dans des moments pareils, c'est-à-dire des gens qu'on connaît pas et qui pourraient très bien être des parents, des proches. En fait, on a un contact humain d'un seul coup. Je me rappelle de ce type qui avait peut-être une cinquantaine d'années et qui était assis en face donc du lieu où la bombe avait explosé, assis sur le bord du trottoir et la tête entre les mains, il pleurait et il était complètement bouleversé en disant c'est l'horreur, ce sont des fous, etc. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Mais même moi, je me suis surpris à parler tout seul ou à parler à des gens. Enfin, c'est l'horreur, je pouvais pas dire grand chose. On nous traite un peu de charognards parce qu'on prend des photos. C'est l'éternel problème, l'éternelle discussion qui est charognard, genre les gens qui rendent l'actualité ou ceux qui achètent les journaux. Pour un photographe, c'est pas beau de craquer, mais c'est vrai que quand j'ai pris les photos, j'avais les larmes aux yeux, enfin c'est-à-dire que je pleurais carrément. Je trouvais ça tellement injuste, tellement fou ce geste de jeter une bombe comme ça sur des innocents. Quand on est témoin de la chose, il y a une part d'humanisme qui reprend le dessus sur le journaliste, c'est-à-dire qu'on perd ce cynisme et ce recul qu'on a d'habitude sur ce genre d'événement. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à faire les photos. C'est-à-dire que j'allais sur les lieux, je faisais des plans rapprochés, je repartais, prendre un peu d'air, si je peux dire, et je revenais faire les photos.
Alors une fois que vous êtes rentré au journal, vous étiez euphorique parce que vous aviez les photos que personne n'avait ?
Non, pas du tout. À la limite, j'en avais rien à foutre. J'ai fait ça par réflexe, par professionnalisme, parce que d'abord, je m'en serais voulu toute ma vie si je ne les avais pas faites. Et puis voilà, donc j'ai même pensé à doubler noir et blanc et couleur parce qu'il faut toujours les deux. Et je suis rentré, je me foutais complètement de ce que j'allais gagner comme argent. Je voulais voir les photos, je voulais voir ce que j'avais fait, quoi. C'est tout ce qui m'intéressait et je voulais me calmer surtout. Alors je me suis mis dans un coin, j'ai attendu que ça se passe, j'ai vomi ce que j'avais sur le ventre et puis en l'espace de 2-3 heures, ça allait nettement mieux, quoi. J'ai pu regarder un peu ce que j'avais fait. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu parce que les photos, je les ai vraiment vues que 2 jours après, quoi. J'ai vu les détails, les choses que j'avais pas vues les premiers jours. Je suis revenu jour pour jour, une semaine après, et je suis venu effectivement acheter le disque la semaine d'avant, j'avais pas pu acheter.
Reporter de guerre, deuxième partie.
Ce sont les chaînes chasse. Et c'est vrai que quand vous partez avec des photographes, il y en a certains qui sont très forts là-dessus. Et vous êtes sûr d'être sur le bon coup, vous êtes sûr d'être à peu près à l'endroit où il faut. Et si vous allez avec eux, vous êtes sûr de pas louper l'événement, je veux dire.
Avec Paul Servant, caméraman à la radio-télévision canadienne, Jean Picard, photographe freelance, et Arnaud Borel, photographe chez Gamma.
Ça fait 10 ans que nous nous retrouvons dans les mêmes hôtels, dans les mêmes pays, sur les mêmes histoires. On doit être aujourd'hui à la 3e grande génération. Bon, on sait que les générations, ça se resserre dans le temps, mais on doit être à la 3e ou 4e grande génération des photographes. Et on sait que les générations précédentes, ça s'est très très mal terminé. En règle générale, il y a toujours des exemples de gens qui se sont qui ont refait une autre carrière dans la presse. Généralement, pas tellement une fatigue physique, c'est une fatigue intellectuelle qui fait arrêter les gens. Ils se disent, pourquoi est-ce que je vais faire le singe sur le perron d'Elysée pour faire la sortie du Conseil des ministres Pourquoi est-ce que je vais risquer de me faire mal en allant à Beyrouth pour faire une photo qui va faire un quart de page dans un journal? Il y a plein de gens qui ont totalement disparu. On les voit plus, on les entend plus parler, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et à la limite, ils sont peut-être à l'hospice ou dans un asile, on ne sait pas.
Reportage Christine Amazière, Emmanuel Moreau. Réalisation Michel Fleischmann, Jean-Pierre Juncker, Yann Parentoen et Olivier Dupré.
Dans le champ des étoiles, il y a le Mirador.
Est-ce que les caméramans vous font une sérieuse concurrence, à vous les photographes? Les caméramans, les équipes de télévision.
Les équipes de télévision nous font une concurrence parce que l'image que vous êtes en train de faire à côté d'eux, la leur sera vue quelques heures plus tard et la nôtre quelques jours plus tard. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé. Hein.
Donc c'est pas une vraie concurrence.
En news, l'image qui a trois jours, c'est une image morte. Donc en news, ça a fait du mal. Oui.
Il y a la frontière. Il y a la frontière.
C'est un métier de solitaire quand vous faites vos photos.
Oui.
Mais d'arriver de faire des photos et de voir des gens qui étaient touchés à côté de moi. Et si je les connaissais, ça me faisait de la peine. Si je les connaissais pas, ma première réaction, c'était à la limite de dire je comprends parfaitement qu'ils se soient fait toucher. Mais ça peut, c'est pas moi. Ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi. Et bon, jusqu'au jour où ça vous arrive. Et le jour où ça vous arrive, vous dites bon, c'est une erreur de parcours. Il y a quelqu'un qui a mal géré. Bon, j'étais pas au bon endroit au bon moment. Je ferai plus jamais l'erreur.
Tirer sur le soleil rouge qui meurt dans la mer.
Je suis malheureux à Paris. Au bout de 2 semaines à Paris, je suis quelqu'un de malheureux. Même si je possède, et j'ai de la chance, une famille que j'adore, même si je suis heureux d'être avec eux, j'ai un manque. C'est une drogue. Et la drogue m'a submergé. Cette drogue m'a submergé. Et 15 jours à Paris, c'est une catastrophe. Non, je suis au bord du suicide.
On dirait qu'il dort. Mais pour un nomade, c'est après la mort qu'il n'y a plus de frontières. Qu'il n'y a plus de frontières. Qu'il n'y a plus de frontières. Où est la frontière? Où est la frontière? Pour qui la frontière? C'est loin la frontière. Pourquoi la frontière? C'est loin la frontière.
C'était La guerre photographiée par Christine Lamazière et Michel Fleischmann, deuxième d'une série de 4 nuits magnétiques consacrées aux grands reporters. Première diffusion le 5 novembre 1986 sur France Culture. À suivre.